royale. Et d'ailleurs, il y avait eu, au niveau de l'agglomération, avec un rapport qui avait été présenté également en conseil communautaire. Donc je vais vous en faire lecture parce que c'est un document sur lequel on s'appuie et donc il est important d'en faire lecture et que cela apparaisse bien sûr au procès-verbal de ce conseil municipal. Donc la Chambre régionale des comptes Île-de-France a procédé dans le cadre de son programme de travail de 2022 au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Rambouillet pour les exercices 2017 et suivants. Les différentes étapes de la procédure se sont déroulées de la manière suivante. Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle le 27 juin 2022. Entretien de début de contrôle le 29 juin 2022 avec Marc Robert et moi-même. À cette étape, la Chambre régionale des comptes a procédé à un contrôle in situ sur la base de recueil d'informations et de documents. Entretien de fin d'instruction le 2 décembre 2022 à la suite de l'audit interne. Cet entretien de fin d'instruction a été réalisé en présence de Marc Robert, Philippe Auffray et moi-même. Délibéré de la formation compétente le 5 janvier 2023. Envoi du rapport d'observation provisoire au maire et à l'ancien ordonnateur Marc Robert les 23 et 24 février 2023. Envoi d'extrait du rapport d'observation provisoire au président de la carte Thomas Gourland et au PDG de la CEMIR, c'est-à-dire moi-même, le 28 février et le 2 mars 2023. Réception des réponses au rapport d'observation provisoire et extrait le 15 mars 2023. Délibéré de la formation compétente le 26 avril 2023, envoi du rapport d'observation définitive au maire et à l'ancien ordonnateur le 14 juin 2023 et réception des réponses annexées au présent rapport d'observation définitive le 13 juillet 2023. Donc comme vous le voyez, entre la première date, l'envoi de la lettre d'ouverture de contrôle le 27 juin 2022 et la réception des réponses annexées le 13 juillet 2023, un an s'est écoulé. Je vous propose donc de vous faire lecture de la synthèse du rapport d'observation définitive rendu par la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes Île-de-France a contrôlé les comptes et la gestion de la commune de Rambouillet pour les exercices 2017 et suivants. La commune est membre de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire, à laquelle ont été notamment transférées en 2020 les compétences du cycle de l'eau. Nonobstant ces transferts, les services mutualisés entre les deux entités sont modestes. Une situation financière saine. Les comptes de la commune sont réguliers et sincères, bien que les régimes d'amortissement et de provision nécessitent des ajustements. Entre 2017 et 2021, les charges de gestion ont baissé de 4%, quand les produits de gestion augmentaient de 4,3%. L'exercice 2022 marque pourtant une rupture de ce cycle vertueux. Si les produits restent stables, les charges augmentent de 12,1% en euros courants. La commune a décidé à son budget primitif pour 2023 une hausse de 19% des taux d'imposition des taxes foncières, la troisième en 6 ans. Si l'endettement est maîtrisé, il est par habitant supérieur de 37% à la moyenne nationale. Il a permis de faire face à des dépenses d'investissement par habitant d'un montant similaire à celle de communes comparables. La capacité de désendettement apparente s'est levée à 5,7 années. En 2021, puis à 9,3 années en 2022. La commune de Rambouillet peut néanmoins s'appuyer sur une trésorerie abondante et sur la hausse de ses produits fiscaux pour financer son programme pluriannuel d'investissement. Une augmentation réelle mais insuffisante du nombre de logements sociaux. La commune compte 21,5% de logements sociaux sur son territoire. Ce taux inférieur à l'objectif légal de 25% a engendré un prélèvement sur ressources de 110 000 euros en 2022. Les logements sociaux sont gérés par 12 bailleurs, dont la Société d'économie mixte immobilière de Rambouillet, SEMIR, qui dispose de 542 logements sociaux et de 537 logements privés. En tant qu'actionnaire majoritaire, la commune doit renforcer son contrôle administratif et davantage s'investir dans le pilotage du plan stratégique de patrimoine de la société. Pour atteindre le taux de 25% de logements locatifs sociaux, la commune pourra mettre à profit la révision de son PLU pour ajuster ses prescriptions en matière de logement social. Une stratégie d'adaptation au changement climatique a affirmé. La commune ne s'est pas encore dotée d'une stratégie de transition climatique. Elle gagnerait notamment à actualiser son bilan carbone datant de 2011 et à l'enrichir d'un plan de transition. Plusieurs projets témoignent toutefois d'une action résolue en la matière. La commune a engagé en 2022 la rénovation complète de son parc d'éclairage public, couvrant 3573 points lumineux pour un montant de 8 400 000 euros. Elle a également adopté une gestion raisonnée de ses espaces verts et entame une démarche d'inventaire de son parc arboré. Si plusieurs bâtiments ont déjà fait l'objet d'une rénovation énergétique, la Chambre invite la commune à recenser ses bâtiments et à élaborer un schéma directeur immobilier afin d'atteindre l'objectif de réduction de consommation d'au moins 40% en 2030. À l'issue de son contrôle des comptes et de la gestion, la Chambre formule 6 recommandations, dont 4 concernant la régularité et 2 visant à améliorer la performance de la gestion. Pour entrer plus en détail dans le rapport, je vous propose de vous faire part des conclusions de la CRC par thématique abordée, sachant que vous avez été destinataire du rapport complet. Je vous propose ensuite de vous faire lecture de ma réponse au rapport dans laquelle je réponds aux 6 recommandations de la Chambre. Alors, le rapport CRC, les conclusions intermédiaires. Présentation générale de la commune. La commune s'inscrit dans un environnement naturel et social favorable. Si le nombre d'emplois est inférieur au nombre d'actifs, la commune compte toutefois une part élevée de ménages fiscaux imposés et un taux de pauvreté très inférieur à la moyenne départementale. Elle est membre de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire, à laquelle ont été transférées les compétences du cycle de l'eau en 2020. Malgré des enjeux communs, les deux entités se sont insuffisamment saisies des possibilités de mutualisation qui leur sont offertes. Enfin, 3 zones d'activité restent à transférer à la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire. Fiabilité comptable et financière. Les comptes examinés par la Chambre n'ont pas fait apparaître d'anomalies significatives. Toutefois, une procédure de suivi de l'inventaire doit être formalisée et le respect des règles d'amortissement et de provision amélioré. Les dispositifs de contrôle interne et de gestion sont à développer afin d'améliorer la maîtrise des risques et des coûts. L'information budgétaire et comptable est détaillée, bien que les comptes administratifs ne comportent pas toutes les annexes réglementaires ou parfois de manière incomplète. La commune est invitée à mettre en ligne sur son site Internet ses différents documents budgétaires afin qu'ils soient facilement accessibles aux citoyens. Enfin, la qualité des prévisions budgétaires en dépenses doit également être affinée. La situation financière. À partir de 2018, la commune a retrouvé des marges de manœuvre financières à la faveur d'une maîtrise de ses charges de fonctionnement et d'une augmentation de ses produits, soutenu en particulier par la hausse des taux d'imposition. La commune dispose d'une profondeur de fonds de roulement dans lequel elle entend puiser pour financer son programme pluriannuel d'investissement. La hausse de 12% des charges de gestion en 2022 a entraîné une forte baisse de la capacité d'autofinancement qui est passée de 6,7 millions en 2021 à 3,98 millions en 2022. Dans ce contexte, la commune doit maîtriser l'évolution de ses charges et ajuster son programme pluriannuel d'investissement. Les ressources humaines. La fonction ressources humaines a été structurée et renforcée à l'aide d'une stratégie formalisée et d'outils de pilotage facilitant la gestion des effectifs, des emplois et des compétences. La commune mène ainsi une véritable politique d'accompagnement des agents dans leur parcours professionnel. Le suivi de l'activité des agents reste toutefois perfectible et nécessite la consolidation du suivi et du contrôle des heures complémentaires et des heures supplémentaires effectuées. Une détermination plus fine de la situation et des besoins des services permettrait d'optimiser l'usage de ces heures, les recrutements et de renforcer la lutte contre l'absentéisme. Les évolutions juridiques en matière de rémunération des agents et les prévisions de recrutement obligent la commune à repenser ses marges de manœuvre et à adapter en conséquence sa stratégie. Le logement social. Le nombre de logements sociaux a augmenté depuis 2017, passant de 20,1% à 21,5% des résidences principales, ce qui reste inférieur à l'objectif légal de 25%. En outre, l'offre des logements est en partie inadaptée à la demande, en particulier en ce qui concerne la taille des logements. La commune peut s'appuyer sur la CEMIR, qui joue un rôle structurant dans cette politique. En tant qu'actionnaire majoritaire, la commune doit renforcer son contrôle administratif et financier de la société. Elle gagnerait en outre à lui fixer des objectifs patrimoniaux dans le plan stratégique de patrimoine. La révision en cours du PLU offre enfin une fenêtre d'opportunité pour rehausser les prescriptions en matière de construction de logements sociaux et orienter la qualité de l'offre vers une demande de logements petits et accessibles aux plus modestes. L'adaptation au changement climatique. Les grands projets de la commune comportent une forte dimension environnementale. En outre, elle s'est engagée dans les meilleures pratiques en matière de gestion différenciée de déploiement du végétal en ville. Elle a également initié une rénovation complète de son parc d'éclairage public. Ces réalisations et ces projets gagneraient à s'étoffer d'un bilan carbone et d'un plan de transition dans le cadre d'une vision stratégique plus formalisée. La commune doit en outre accélérer son recensement des bâtiments et ses investissements en faveur de la réduction des consommations énergétiques. Enfin, je vais donc procéder à la lecture du courrier que j'ai adressé le 12 juillet 2023 en réponse à la CRC et aux recommandations de celle-ci. Toutes les pièces sont fournies en annexe du rapport. Donc le courrier de réponse de la commune. Monsieur le Président, je fais suite à la transmission du rapport d'observation définitive réalisé dans le cadre du contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Rambouillet pour les exercices 2017 jusqu'à la période la plus récente. Conformément aux dispositions de l'article L243-5 du Code des juridictions financières, je vous apporte une réponse écrite aux observations de la Chambre. Avant tout, je tiens à saluer le travail précis de vos équipes. Il m'a été agréable d'échanger avec vos représentants tout au long du contrôle. Le rapport d'observation ainsi rédigé sera pour les élus, les collaborateurs de la ville et pour moi un outil important pour poursuivre l'amélioration de la gouvernance de Rambouillet. Avant de répondre aux recommandations de régularité de performance, je souhaite vous faire part des points saillants qui m'ont marqué à la lecture de ce document. Tout d'abord, mon attention s'est portée sur l'axe retenu du contrôle. Ainsi, au-delà des traditionnelles parties sur la fiabilité des comptes, sur la situation financière et les ressources humaines, la Chambre a souhaité mettre l'accent sur les politiques liées au logement social et à l'adaptation au changement climatique. Il s'agit en effet de politiques sur lesquelles le législateur et les services de l'État dans les territoires témoignent d'attentes fortes. S'agissant des comptes de la ville, vous relevez en page 4 qu'ils sont réguliers et sincères. Vous jugez également d'une situation financière saine. Cette analyse de votre part marque le sérieux de la gestion municipale. Il s'agit d'un élément important pour nous et je pense pour chaque Rambouillétain qui lira ce rapport. Bien sûr, vous proposez des pistes d'amélioration et des recommandations que nous avons étudiées et pour lesquelles nous apportons des réponses afin de nous y conformer. Je note aussi que les charges de personnel progressent de 0,9% par an sur la période 2017-2021. Cette faible progression, malgré la création nette de 6 postes sur la même période, est le fruit d'une gestion maîtrisée du recours aux heures supplémentaires ainsi que de réflexions d'optimisation autour des organisations et des postes de travail. Vous faites mention d'une rupture en 2022. Vous l'expliquez notamment par une augmentation de 26% des charges à caractère général, principalement en raison de l'augmentation des fluides à la page 20. Au regard d'un contexte national et international, lui aussi marqué par une profonde rupture, nous avons dû nous adapter pour maintenir un plan pluriannuel d'investissement. Pour cela, pour préserver les équilibres financiers municipaux et malgré une trésorerie abondante, nous avons effectivement fait évoluer la fiscalité. Il s'agissait d'une démarche destinée à sécuriser l'avenir financier de notre ville et à lui permettre de relever au mieux les défis d'avenir importants. S'agissant plus particulièrement de la gestion des ressources humaines, la collectivité a dû faire face, dès l'année 2022, à des mesures statutaires exogènes importantes n'ayant pu être compensées au risque de dégrader notablement le service public. Eu égard à cette situation inédite, dès l'été 2022, des pistes d'économie réalistes ont été prises pour maîtriser l'évolution de la masse salariale. Vous notez également que nous sommes attentifs à l'équilibre de l'habitat et notamment à nous conformer aux obligations en matière de logement social. Ainsi, vous notez que le nombre de logements sociaux a augmenté depuis 2017, passant de 20,1% à 21,5% des résidences principales, en page 53, et que l'analyse des résultats d'attribution des logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune fait valoir une réponse cohérente avec la demande exprimée et les objectifs nationaux, page 45. Naturellement, dans ce domaine également, avec nos partenaires, nous mettons en œuvre les politiques nécessaires pour promouvoir un équilibre en matière d'habitat, conformément aux lois et aux autres documents supracommunaux structurants, SDRIFE et SCOT. La révision de notre PLU sera bientôt adoptée. Il a pour vocation de permettre à notre ville de se développer tout en préservant notre patrimoine naturel et historique. Aussi, un contrat de mixité sociale est en cours d'élaboration avec les services de l'État et sera présenté au Conseil municipal du 28 septembre 2023. En matière de stratégie d'adaptation au changement climatique, vous soulignez que nos projets témoignent d'une action résolue en la matière. En effet, comme vous le relevez, les grands projets de la commune comportent une forte dimension environnementale. Pour que ce sujet prioritaire rayonne dans chaque action municipale, nous avons engagé des formations auprès de nos agents et un groupe de travail stratégique a été mis en place dès le début de l'année dernière. Il travaille à la rédaction de documents structurants en lien avec le PCAET de Rambouillet Territoire. Ainsi, la ville de Rambouillet a été lauréate de l'appel à projet ADEME sur le schéma directeur immobilier et énergétique qui vise à mettre en place un plan pluriannuel pour adapter nos bâtiments communaux. Il me paraît évident qu'un accompagnement financier important sera nécessaire afin de répondre à cet enjeu. Il me semblait important de partager avec vous à ce stade ces quelques remarques. Comme il est d'usage, vous nous avez formulé des recommandations tant sur le plan de la régularité que sur celui de la performance. Je vous confirme donc les réponses que je vous avais apportées à la suite de la remise du rapport intermédiaire. Donc, sur les recommandations de régularité. Sur la première, adopter une délibération conforme aux dispositions de l'article R2321-1 du Code général des collectivités territoriales et de l'instruction budgétaire et comptable M14, précisant le compte d'imputation et la durée d'amortissement de chaque bien amorti. Nous prenons acte de la recommandation de régularité numéro 1, relative à la nécessité d'adopter une délibération conforme aux dispositions de l'article R2321-1 du Code général des collectivités territoriales et de l'instruction budgétaire M14, précisant le compte d'imputation et la durée d'amortissement de chaque bien amorti. La ville de Rambouillet s'engage à se conformer à la régularité des dépenses obligatoirement amorties par le vote d'une délibération à l'occasion du conseil municipal le plus proche après communication du rapport définitif à l'Assemblée délibérante, annulant et remplaçant la délibération du 26 mai 2005. La recommandation 2, renforcer le suivi des heures supplémentaires effectuées et le contrôle du contingent mensuel et de ses dérogations par la mise en place d'un contrôle automatisé des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret numéro 2260 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. La réponse, la Chambre remarque l'indemnisation de certaines heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel plafonné à 25 heures, ainsi que l'absence de contrôle automatisé. Il est à noter que la majorité de ces heures sont liées à des circonstances particulières. Formation BAFD, élection, séjour, événementiel, devant faire l'objet d'une information immédiate aux membres du comité social territorial, le CST, anciennement comité technique. Les chefs de service ne sont pas suffisamment sensibilisés sur ce point, la direction des ressources humaines n'ayant connaissance de ces dépassements qu'une fois réalisés au moment de la réception des états d'heure pour la mise en paix. La ville s'engage à modifier la délibération relative au règlement du temps de travail lors du premier conseil municipal suivant la transmission du rapport définitif afin de préciser la nature des circonstances permettant le dépassement du contingent mensuel des heures supplémentaires ainsi que les règles applicables aux agents à temps partiel. Elle s'engage à sensibiliser la ligne hiérarchique, chef d'équipe, responsable de service et directeur, à communiquer en amont des dépassements du contingent mensuel des heures supplémentaires, après validation par la Direction générale des services, afin d'informer les membres du CST sans délai, par mail, puis en séance plénière. Cette procédure sera intégrée dans les projets de service et sera matérialisée par un tableau de suivi par événement et fera l'objet d'un indicateur au sein des tableaux de bord. Une analyse annuelle sera formalisée par la Direction des ressources humaines. Le contrôle automatisé préconisé par la Chambre au regard des dispositions du décret 2260 du 14 janvier 2002 n'est applicable qu'à une partie très réduite des agents qui réalisent des heures supplémentaires. Au global, les heures supplémentaires sont principalement réalisées par les agents occupant des fonctions itinérantes, agents de logistique, agents des sports, policiers municipaux, animateurs, agents de voirie ou de propreté urbaine, pour lesquels les états déclaratifs existants sont en conformité avec le décret. La mise en place du contrôle automatisé sera formalisée par l'élaboration d'une liste exhaustive des emplois concernés par le décret et un système permettant l'automatisation du recueil des heures supplémentaires effectivement réalisées sera déployé par la collectivité. La recommandation 3. Renforcer le suivi de la comptabilisation des heures complémentaires, telles que définies par l'article 1 du décret 2020-592 du 15 mai 2020, dans les conditions fixées par l'article 3 du même décret. La Chambre rapporte un recours progressivement plus important aux heures complémentaires depuis 2020 et a fortiori depuis 2021, ainsi que la réalisation et le paiement d'heures complémentaires excédant la durée légale de travail pour un agent à temps plein. Le recours aux heures complémentaires s'est accru en 2020 en raison de la période Covid et de la nécessité de pallier un fort absentéisme et de la refonte du système de rémunération des assistantes maternelles, puis en 2021, avec le basculement des heures rémunérées aux agents dits « horaires » que nous avons régularisés sur des emplois permanents. Le recours aux agents dits « horaires » permettait de pallier les absences, la plupart du temps non prévisibles, d'agents de restauration et d'entretien, et d'adapter le nombre d'heures aux besoins réels uniquement. Ce système permettait de préserver les finances de la ville en évitant de créer des emplois permanents avec des temps de travail supérieurs aux besoins. En juillet 2021, 10 emplois non permanents de 7 heures hebdomadaires ont été créés, permettant de maintenir un niveau de souplesse élevé en complétant ces 7 heures, systématiquement réalisées par des heures complémentaires. Il avait été convenu que l'identification de besoins permanents permettrait d'augmenter ces temps de travail et de réduire le recours aux heures complémentaires. C'est d'ailleurs l'engagement que nous avons tenu avec la suppression de 3 emplois à temps non complet de 7 heures hebdomadaires et la création d'un emploi à temps complet lors du conseil municipal du 29 septembre 2022, d'un emploi à temps non complet de 28 heures lors de ce même conseil du 29 septembre 2022 et d'un emploi à temps non complet de 31 heures 30 au conseil municipal du 8 décembre 2022. Ces transformations de postes se poursuivront si les conditions posées sont remplies. Une information sera formulée auprès des chefs de service ayant recours aux heures complémentaires pour les sensibiliser sur les règles afférentes. Une procédure mensuelle de contrôle sera établie avant et après mise en paie avec un formulaire de recueil spécifique et des extractions de contrôle via le logiciel de paie. À l'occasion de la révision de la délibération relative au règlement sur le temps de travail, les agents à temps partiel seront explicitement exclus du système des heures complémentaires. La recommandation 4. Établir avec les bailleurs les conventions fixant les droits de réservation sur les flux annuels de logements en application des articles L441-1 et R441-5 du Code de la construction et de l'habitation. Nous prenons acte de la recommandation de régularité numéro 4 relative à l'obligation d'établir avec les bailleurs les conventions fixant les droits de réservation sur les flux annuels de logements en application des articles L441-1 et R441-5 du Code de la construction et de l'habitation. Des conventions de réservation ont été signées de longue date par la ville, mais n'ont pu être retrouvées malgré les recherches menées au sein de ses archives. La ville de Rambouillet s'engage à régulariser cette situation en se mettant en conformité avec les dispositions de la loi Elan, avec la formalisation, avec chacun des bailleurs sociaux de la ville, d'une convention organisant la gestion en flux de ces droits de réservation. À cette fin, le processus de travail sera amorcé dans les meilleurs délais avec la constitution d'un comité de pilotage. En ce qui concerne les recommandations de performance, la première recommandation, présenter au conseil municipal le plan stratégique de patrimoine de la Société d'économie mixte immobilière de Rambouillet. La réponse, la Société d'économie mixte immobilière de Rambouillet, SEMIR, a défini dans son plan stratégique de patrimoine, dit PSP, puis dans son plan à moyen terme, PMT, sa stratégie sur son patrimoine existant, notamment ses projets de réhabilitation énergétique, sa politique de développement en neuf et sa politique de vente pour financer les deux premiers volets. À ce jour, l'actualisation du PMT n'a pas encore été approuvée par le conseil d'administration de la SEMIR. Après cette étape, les principaux axes stratégiques en termes de choix et de volume du PMT seront présentés au conseil municipal. La recommandation 2, actualiser le bilan d'émissions de gaz à effet de serre et établir un plan de transition. En s'appuyant sur le PCAET de Rambouillet Territoire et en lien avec ses actions en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique, la ville s'engage à réaliser spécifiquement une mise à jour du bilan des gaz à effet de serre datant de 2011 dans le délai imparti d'un an à compter de la validation du rapport définitif de contrôle. En parallèle de ce bilan, sera élaboré un plan de transition présentant les objectifs, les moyens et les actions envisagées et priorisées au vu du contexte financier actuel, ainsi que leur calendrier prévisionnel de réalisation visant à réduire ces émissions. Quant aux autres observations, les invitations émises en matière de finances, ressources humaines, logement social et d'adaptation au changement climatique ont été notifiés aux responsables de services et directeurs pour être intégrés au projet de service avec un objectif de suivi. Un tableau a été rédigé à cet effet reprenant l'ensemble des préconisations faites tout au long de votre rapport. Vous le trouverez en annexe de cette lettre. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma considération distinguée. Voilà pour la présentation. Alors, je vous fais grâce de la présentation mot à mot du tableau que vous avez en annexe. Et je vous laisse s'il y a des questions.
Oui. D'abord, merci que l'on puisse recevoir ce dossier fort intéressant qui véritablement présente toute l'activité de la commune. Et donc, on est vraiment dans un sens large de cette gestion. Alors, il y a des problèmes relevés, comme tout commissaire aux comptes, d'alignement. Il y a eu par exemple les heures supplémentaires, il y a aussi tous les aspects d'utilisation des véhicules, voilà, des recherches d'utilisation des véhicules, ainsi de suite. Donc ça, c'est courant, mais il y a surtout pour nous des intérêts profonds. C'est des choses qu'on a déjà demandées en 2021 auprès de M. Thomas Gourlan, notre adjoint aux finances, pour avoir une gestion de la comptabilité analytique. Et les commissaires aux comptes expriment bien qu'il faut mettre en place une gestion de comptabilité analytique, qu'aujourd'hui, on nous présente en conseil 55% du budget au niveau des dépenses. Il y a 45% des dépenses qu'on ne voit pas balisées, on ne sait pas exactement où elles sont. C'est d'ailleurs, ça rejoint aussi ce qu'on avait exprimé au conseil, je pense, du mois de juin, où on voulait savoir au niveau de la sécurité quels étaient les budgets qui étaient alloués. Donc là, on sollicite véritablement que cette comptabilité analytique soit mise en œuvre rapidement pour le bien des élus, des habitants. Je pense que même politiquement, c'est intéressant. Donc je ne comprends pas que ça ne soit pas véritablement fléché depuis longtemps, puisque ça permet de faire comprendre au rembolitain où les finances passent. Et dans l'état actuel des choses, avec des remontées de beaucoup de colère d'habitants sur la taxe foncière, ils ne savent pas exactement pourquoi cette évolution de taxe foncière, à quoi ça va servir, à quoi ça risque de financer les choses, et ainsi de suite. Donc ça serait très important qu'on ait cette comptabilité analytique et que l'on ait la possibilité de la visualiser et que l'habitant puisse le visualiser. Donc ça, c'est un point pour lequel nous, on appuie fortement pour que ça se mette en œuvre. On a noté quand même des choses très importantes, c'est tout le plan espace vert, le plan énergétique, le plan la gestion des eaux, parce que là, on n'en parle pas, mais ils en parlent. Donc, on est sur les fluides, l'ensemble des fluides, et il y a une véritable volonté donc, de suivi, parce que c'est très important. Il y a même des échéances. Je pense par exemple aux logements sociaux, on a l'échéance de 25%, mais si j'ai bien lu dans le rapport, en 2030, ça sera 30%. Donc ça veut dire qu'il faut rattraper le retard, mais qu'en plus de ça, on va avoir...
C'est pas 30% en 2030. Hein. Non. C'est par rapport à ce que nous, on prévoit pour pouvoir rattraper. Mais ça reste à 25%.
Moi, j'ai cru lire qu'en plus de ça, les directives de l'État faisaient que suivant...
Bah, alors, à moins que vous soyez... peut-être dans les petits papiers du gouvernement et qu'ils soient en train de nous pondre un truc comme ça, mais sincèrement, non. Pour le moment, ça reste 25%.
D'accord. OK. Bah donc, tant mieux. Ils proposent même des solutions hein, qui ne sont pas adoptées aujourd'hui, puisqu'ils disent que la CEMIR peuvent peut-être prendre une partie de ces logements dits privés et les basculer. Donc, voilà, on pourrait, dès 2027, rejoindre la possibilité de ces 25%. Donc, ce n'est pas une chose qui est faite. On voit bien que sur les logements sociaux, oui, il y a une carence de petits logements et que donc on ne peut pas répondre à toutes les demandes puisqu'en réalité, on n'a pas les... Donc, ça veut dire qu'il faut véritablement programmer les évolutions des logements sociaux, mais on va en parler au point suivant, par rapport aux besoins réels des habitants. Mais donc, je reviens sur ce plan et vous avez même indiqué que... vous allez mettre en place un comité pour la transition climatique, c'est-à-dire étudier les difficultés que l'on a aujourd'hui et comment on peut répondre à ça. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient citées dedans, mais pas de membres de la minorité. Donc, vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que ce serait peut-être intéressant aussi que la minorité puisse participer sur cette commission, sur la transition énergétique de la ville de Rambouillet. Je pense qu'on a des choses à dire, je pense qu'on a des choses à voir. Il est bien exprimé d'ailleurs dans ce rapport que la ville de Rambouillet, c'est très compliqué parce qu'elle est prise entre son château, sa forêt, ainsi de suite, mais on n'a qu'une rue principale qui est pas du tout végétalisée, qui est véritablement une source de chaleur, et donc c'est comment faire évoluer ça. Donc nous, on serait très intéressés, grâce à ce rapport, à pouvoir participer à cette commission de façon à ce que l'on puisse aider à la réflexion, puisqu'on est représentant d'un certain nombre d'habitants, ça nous paraîtrait très important. Je remarque aussi, on avait souri au cours de conseils municipaux quand j'ai indiquait que par rapport à la flotte des véhicules automobiles que l'on avait, peut-être qu'on pouvait envisager des cargos vélos, des vélos électriques, ainsi de suite. Je suis heureux de voir que le rapport présente aussi ces solutions-là. S'étonne qu'on n'ait pas plus ouvert ces possibilités de déplacement à l'intérieur de la ville et que c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Donc voilà, il y a un certain nombre de points, parce que c'est touffu, c'est très intéressant. On peut remarquer qu'il y a des choses à régler, qu'il y a véritablement des outils à mettre en œuvre. Quand on parlait des heures supplémentaires, complémentaires, je ne sais pas si vous allez mettre des pointeuses pour pouvoir gérer ça, j'en sais rien. Ça veut dire que c'est un changement radical au niveau du personnel d'être suivi, donc c'est aussi à préparer. Mais en tous les cas, il y a des ajustements à faire au niveau de la gestion de la commune et il y a aussi des ouvertures par rapport aux défis de demain. Et donc là, on est très intéressé par rapport à ces défis de demain de pouvoir participer. Donc voilà, c'est une réflexion globale parce que là, de toute façon, c'est un acte. Mais voilà nos réflexions.
Alors, si M. Courant veut prendre la parole, mais en tous les cas déjà, moi, au niveau des finances, vous dire que ce n'est pas un satisfecit, mais c'est quand même important de signaler, parce que tel que vous le présentez, M. Bernard, on peut se dire que nous gérons au doigt mouillé la municipalité. Ça n'est pas ça, puisque au contraire, la Chambre régionale des comptes signifie bien dans son rapport que tout est clair et que les choses sont faites en pleine sincérité et que la comptabilité et le budget de la ville est sincère. La seule chose, c'est qu'en effet, vous parlez de comptabilité analytique. Nous sommes là avec une Chambre régionale des comptes qui nous contrôle, mais qui contrôle bien d'autres villes. Et sur les collectivités territoriales, et moi-même, je m'en suis étonnée, la comptabilité analytique n'était pas de fait et n'existait pas. Et c'est toute une mutation qui est en train de se faire. Et pour cela, c'est aussi, je vous le dis, ça paraît idiot, mais c'est important que tout le monde l'entende, c'est aussi l'adaptation des outils qui sont offerts aux collectivités territoriales pour pouvoir rentrer tout leur budget au niveau du service finance. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, c'est à ce titre-là que nous allons changer prochainement sur ce logiciel pour avoir quelque chose qui soit facilitant pour les services. Parce que quand vous avez dans les services, alors déjà nous avons un service financier qui est très compétent, qui n'est pas un service financier composé de beaucoup de personnes, mais qui sont extrêmement compétentes, et nous avons dans les services des personnes qui s'occupent de façon très compétente également du budget, mais qui n'ont pas les outils et dont on va justement les doter pour permettre cette approche très analytique du budget. Alors, je ne sais pas si M. Gourland veut préciser.
Alors, avant d'essayer de vous répondre, M. Bernard, qu'est-ce que vous entendez par analytique ? Est-ce que vous pouvez préciser votre requête ?
C'est très simple, hein. Je pense que ça existe dans tous les documents comptables. On a une comptabilité, vous avez la M14 qui suit des comptes, des classes et ainsi de suite, et donc on ventile par rapport à ça, les dépenses. De l'autre côté, vous montez un plan comptable analytique où vous définissez vos règles, c'est-à-dire que soit vous voulez gérer par projet, et je gère par exemple le projet de l'école de Clairbois, et je la flèche, je lui mets un compte et je prends toutes les recettes, les dépenses et ainsi de suite, les emprunts qui sont dans le projet. J'étais précédemment donc dans une entreprise privée américaine. La comptabilité française, c'était une chose. Voilà, on répondait aux règles. Et de l'autre côté, on avait besoin d'une comptabilité internationale, donc analytique. Toutes les sociétés du groupe parlaient le même langage et comme c'était des magazines, des revues, on avait besoin de connaître exactement une page, ce qu'elle coûtait, ce qu'elle pouvait rapporter. Donc, au détail, jusqu'à la pige, jusqu'à l'article, on savait et on ciblait. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est capable de reconstruire le budget à travers les projets qui sont proposés et par rapport aux obligations que l'on a. Il faut faire de la voirie, et ainsi de suite, mais on sait exactement comment c'est chiffré. Donc c'est bigrement intéressant, parce que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple et beaucoup plus visible. c'est par rapport à un plan. Donc, comme je l'avais déjà dit, hein, j'avais dit que le boulot serait énorme puisqu'il faut créer tout un système analytique. Il faut créer tous les comptes analytiques d'une façon logique. Mais c'est énorme et c'est bien. Et quand vous parlez de, du service comptable, j'ai été surpris aussi de voir qu'on avait une équipe comptable étoffée et qu'on a moins de personnes aujourd'hui. On a des, un effectif qui est beaucoup plus réduit aujourd'hui. On a 3 personnes, si j'ai bien compris, au niveau comptable.
J'ai un peu mieux compris votre requête. On n'est pas organisé exactement comme ça, parce qu'on a une déconcentration, une déconcentration dans les services, des bons de commande, des missions, des budgets, de la gestion des budgets. Donc, on a un service central qui agrège l'ensemble. Et ensuite, dans tous les services, c'est déconcentré. Donc, on n'a pas que 3 personnes pour gérer le budget de la commune. Avant de, j'ai une deuxième question à vous poser. Sur le principe, je comprends le principe de la comptabilité analytique, mais dans quel but ? Quelle est l'information pour vous qui vous semble être insuffisante, bien que le rapport dise exactement l'inverse ?
Moi, aujourd'hui...
Est-ce qu'il y a des thématiques, soyons ça, est-ce qu'il y a des thématiques qui vous interrogent ?
Ah, toutes les thématiques m'interrogent.
Toutes les thématiques vous interrogent ?
Oui, toutes les thématiques. Oui, tout m'interroge. C'est-à-dire que l'ensemble des dépenses qui sont faites au niveau de la commune, l'ensemble des recettes, des emprunts, je voudrais savoir où ça se ventile. Et je voudrais savoir comment elles se croisent. C'est-à-dire qu'un emprunt, on dit, on fait un emprunt de 2 millions. Et après, derrière, on ne sait pas exactement où va cet emprunt de 2 millions. Est-ce qu'il va sur l'école de Clairebois ? Est-ce qu'il y a une partie qui va
Donc,
sur...
Donc, en gros, vous voulez avoir une lecture analytique de l'ensemble du budget de la commune.
Ah, mais bien sûr.
Alors, avant...
À part le personnel...
Monsieur Bernard, je vais maintenant tenter de vous répondre. Avant de vous dire ce que je vais vous proposer, et tout d'abord, vous reprendre les termes du rapport de la Chambre régionale des comptes dans son contenu. Page 11. En 2021, la commune a acquis le logiciel Exae qui permet de réaliser un calcul des coûts et améliore la structure analytique du budget. La préparation budgétaire de 2022 a été réalisée sur ce logiciel. Donc nous avons les outils internes qui sont installés pour faire cette lecture analytique. En 2023, la commune utilise l'application Menti-Budget pour centraliser les demandes. Donc l'outil est en place. Alors, puisque vous m'en parlez, vous semblez connaître le sujet, il y a un biais dans cette histoire-là. C'est que lorsqu'on veut rentrer dans une analytique à la page, il nous faudra non pas 5 personnes dans le service, mais 15, qui vont être mobilisées toute l'année, et pour constater à la fin de l'année que finalement, les coûts qu'on aurait pu espérer économiser par cette lecture analytique ont été complètement absorbés par la croissance des charges de personnel qu'on doit faire pour faire le travail. Donc il y a une limite au système, c'est-à-dire qu'une limite de se dire l'analytique permet d'affiner les dépenses, mais le coût pour arriver à cette lecture analytique est tel qu'il vient largement... être supérieur aux économies qu'on serait susceptible de réaliser. Donc, il faut faire attention.
Je vous ai dit qu'on mettait de côté les personnels, les charges de personnel.
Vous êtes d'accord que là-dessus, il y a un biais dans l'histoire. Vous êtes d'accord. Je prends la page 12, la page suivante. Qualité du rapport d'orientation budgétaire. Les rapports d'orientation budgétaire sont étoffés conformes à ce qui est attendu. Leur contenu témoigne d'une volonté de rendre accessibles les informations budgétaires, à l'exception de certains sites qui mériteraient d'être explicités. Dont acte. Ce que je peux vous proposer, parce que j'ai demandé à M. Auffray de savoir, donc de confirmer la composition des membres de la Commission des finances. C'est M. Poulet qui siège à la Commission des finances. Bien. C'est vraiment l'instance où l'on peut faire ce travail-là. Si vous voulez prendre le temps de faire le travail analytique au sein du conseil municipal, n'est pas le bon lieu. Moi, ce que je vous propose, c'est de me demander à M. Poulet de me solliciter au titre de la commission. On mettra ce travail en place, on donnera les éléments qui seront transmis, et après, effectivement, Mme le maire choisira de quel degré de communication elle fera au sein du conseil municipal, mais il n'y a pas lieu d'ici de rentrer dans une lecture analytique du budget, on épuiserait tout le monde et on ne serait pas très efficace. Donc, moi, ce que je vais proposer, c'est que M. Poulet me saisisse. Maintenant, si tant est que M. Poulet me dise que je pourrais comprendre que ce serait peut-être un peu compliqué, moi, je suis prêt, à titre exceptionnel, à vous inviter sur une commission ad hoc, où là, vous seriez susceptible de nous poser des questions sur tel ou tel sujet. On prendra le temps qu'il faut pour vous les présenter. Après, sur la forme du rapport d'orientation budgétaire, malgré les éléments qui sont faits ici dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, on pourra injecter, le terme est un peu, pas forcément très adéquat, mais en tout cas mettre dans le rapport d'orientation budgétaire 2024 un petit peu plus d'éléments analytiques que ceux qu'on avait fait jusqu'à présent pour satisfaire ce besoin d'information. Je conclurai mon propos par vous dire que soyons très sereins, on va faire cette lecture analytique, on l'a fait déjà. Je peux vous assurer que le budget qu'on a construit pour 2023 a été fait à l'aune, puisque c'est ce qui est mentionné, et que tous les choix, les décisions que Mme le maire nous a fait prendre en termes de fiscalité sont éminemment étayées. Donc, je vous le dis tout de suite, le résultat, je le connais déjà, mais on prendra le temps, si vous le souhaitez, de vous montrer qu'il y aura sûrement quelques petits détails où on pourra encore aller optimiser la dépense, mais il n'y a pas d'élément majeur que vous trouverez dans cette lecture analytique. Voilà.
On veut bien voir. Il y a David Jutier qui est aussi représentant à cette commission des finances. Donc,
alors, ce n'est pas la conclusion que j'avais qu'on m'a transmise. Monsieur Jutier, vous ne siégez pas à la commission des finances,
Si,
pardonnez-moi. Alors, monsieur Jutier, dans ce cas-là, venez à la commission des finances, parce que les dernières commissions, vous n'étiez pas là. Posez toutes les questions que vous voulez et je vous y répondrai.
Alors, juste pour vous dire aussi, monsieur Bernard, tout de même que vous avez bien remarqué que nous avons énormément évolué au niveau de notre budget en termes d'investissement, en passant un maximum de choses en APCP. Et lorsque nous sommes en APCP, les choses sont claires et les emprunts sont ventilés de façon claire au niveau des APCP.
On est bien d'accord.
Voilà.
Je
précise.
D'abord, ne prenez pas ça comme une attaque.
Ah non, mais je ne prends pas ça comme une attaque, mais c'est pour dire qu'on est dans cette démarche.
Simplement que c'est complexe. Pour des nouveaux élus, je ne sais pas ce que pensera Mme Caldas, mais les premiers budgets et tout ça, c'est un peu abscon. Je veux dire, si on n'est pas habitué à ce genre de choses, ce n'est pas forcément des plus drôles. À partir du moment où on a une présentation des projets, comment ils sont profilés, comment ils sont ventilés au niveau des recettes, au niveau des dépenses, au niveau des emprunts, et ainsi de suite, et qu'on a une vision globale de la dynamique de la commune par rapport à ces projets, qui permet de répondre à des tas d'autres questions, qui est de dire, vous augmentez les impôts fonciers, à quoi ça va servir? Au moins, ça peut exprimer aussi les raisons pour lesquelles il y a ces augmentations, puisqu'on a besoin de financement pour pouvoir porter ces projets-là. Donc, c'est pour ça que je dis, même politiquement, je ne comprends pas qu'on n'ait pas été beaucoup plus loin dans le domaine.
Mais on est allé plus loin, M. Bernard. Avec les APCP, on est allé plus tard, beaucoup plus loin.
On pousse pour qu'on puisse véritablement avoir une vision beaucoup plus visible, visibilité plus importante.
Reprenons les
dépenses de la ville.
Reprenons le contenu,
et de ses recettes.
Le contenu du rapport d'orientation budgétaire 2023, celui qui a constitué nos orientations et le vote du budget. On peut sûrement chercher un peu plus de précision, mais rappelons-nous la teneur. Nous avons fait de considérables efforts sur l'ensemble des charges à caractère général, toutes les lignes, pour simplement pouvoir absorber le coût des croissances d'énergie. Ce qui a provoqué la nécessité de la fiscalité, c'est de pouvoir absorber ces coûts de l'énergie. C'était une unique et la principale thématique. Il y a peut-être quelques éléments à la marge, mais c'était ça le sujet. Alors effectivement, en termes de détails du rapport d'orientation budgétaire, on n'a pas été beaucoup plus loin parce qu'au fond, il n'y avait pas grand-chose à dire. Partout, on a demandé aux services de faire de considérables efforts pour un peu compenser cette hausse du coût de l'énergie. Et on vous a présenté un plan pluriannuel d'investissement avec des APCP en disant qu'on avait forcément un peu décalé certains projets, tout simplement parce que d'un côté, il fallait qu'on récupère des recettes et de l'autre, atténuer le niveau des dépenses d'investissement. Donc après, si on ne vous a pas présenté au sein du rapport d'annotation budgétaire d'autres éléments, c'est qu'il n'y en avait pas d'éléments qui nécessitaient d'être présentés, tout simplement parce qu'ils étaient dans la continuité du fonctionnement de notre commune. Et d'ailleurs, la Chambre régionale des comptes, dans ce rapport, n'aurait pas manqué de nous dire qu'on aurait, à ce moment de ce rapport, on n'aurait pas tout donné comme information. Or, ce qu'ils disent exactement l'inverse. Donc, en fait, ce que je comprends de votre demande, c'est que vous voulez un niveau de détail, ce qui est très tout à fait légitime, un niveau de détail qu'on est prêt à vous fournir, mais qui n'ont pas forcément lieu d'être dans une présentation de conseil.
Ça, c'est encore autre chose, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir une lecture beaucoup plus simple des finances de la ville. Donc, moi, je pense que oui.
Alors, de toute façon, M. Bernard, comme vous l'avez vu, on a fait sur le Rambouillet Info cette année des pages sur le budget. Et nous referons des pages sur le budget pour justement informer les Rambouillitains de la façon dont les choses sont ventilées. Donc voilà, on a petit à petit, c'était un premier exercice parce que ce n'est pas simple non plus dans un magazine qui est orienté vers toute la population et forcément avec un nombre de pages réduites parce qu'on ne va pas faire un numéro spécial uniquement sur le budget parce que je ne pense pas qu'il serait beaucoup ouvert. Donc voilà, il faut qu'on reste assez serein sur le nombre de pages et restreint. Mais nous allons forcément trouver d'autres méthodes encore plus claires. Alors, on voit que les camemberts, ce n'est pas forcément non plus tout ce qui donne de la clarté. Mais encore une fois, et ça je peux vous le dire parce que j'ai reçu les magistrats de la Chambre régionale des comptes, ils ont salué le travail en APCP en disant qu'on avait passé de plus en plus de choses en APCP et ils l'ont salué parce que, en effet, pour eux, c'est vraiment la méthode qui est d'une clarté parfaite, au point même de nous dire qu'ils allaient en donner l'exemple à d'autres collectivités territoriales. Donc voilà, je ne voudrais pas passer après nous, puisque... Mais c'est important que vous le sachiez. Alors, sinon, je voulais aussi vous répondre par rapport à tout ce qui est l'engagement, sur notre engagement en termes d'environnement, sur l'évolution climatique. En effet, nous avons pris l'engagement auprès de la Chambre régionale des comptes de faire un groupe de travail et non pas une commission. Pas une commission.
Oui, non, c'est un groupe de travail.
C'est un groupe de travail. Or, le groupe de travail, il est composé à la fois de personnes de service, c'est-à-dire qualifiées, et des élus qui correspondent à cette délégation-là. Voilà. Donc, on n'est pas sur une commission, on est bien sur un groupe de travail.
Non, je suis bien d'accord. Mais ça serait intéressant que la minorité... en tant qu'élu écologiste, je ne sais pas, participe, parce que c'est le PCAET, excusez-nous, mais nous, on n'a pas voté pour, hein, vous le savez, en conseil d'agglomération. On n'est pas tout à fait d'accord avec la façon dont c'est présenté et c'est travaillé. Donc, voilà, comme on s'appuie beaucoup là-dessus, a priori, quand je regarde le rapport...
Il y a ça et pas que ça.
Non, mais il n'y a pas que ça. Mais en tous les cas, voilà, donc, je ne sais pas... groupe écologiste, je pense qu'on a une vision, un regard qui peut être intéressant et qui peut amener de nouvelles idées.
Mais les autres collègues de la majorité n'ont pas plus accès à ce comité parce que c'est un comité technique et que les comités techniques sont composés des services, comme je vous dis, et des élus qui en ont la délégation. Donc voilà, c'est ainsi que nous fonctionnons. Et puis je voulais revenir également sur la CEMIR. Parce que ce que vous avez dit, il faut... Alors, vous allez avoir le rapport de la CEMIR d'ici quelques instants. Oui. La CEMIR ne peut pas transformer tous ces logements non conventionnés en logements conventionnés. La CEMIR est, comme vous savez, une société d'économie mixte. Certes, nous sommes les majoritaires, mais nous avons aussi d'autres partenaires au sein de cette société d'économie mixte. Et pour pouvoir programmer, encore faut-il avoir un équilibre financier. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, et je peux vous dire que la Chambre régionale des comptes a remarqué que nous avions 12 bailleurs sociaux, comme vous avez pu le voir, et que nous sommes très inquiets aujourd'hui de voir le nombre de bailleurs sociaux diminuer et leur capacité diminuer. Et d'ailleurs, ça nous a été signalé lors du dernier conseil d'administration de la CEMIR, non pas par la CEMIR et le directeur de la CEMIR lui-même, mais bien par la Banque des Territoires, qui fait partie de l'actionnariat. Et donc, en effet, il y a un véritable enjeu aujourd'hui, alors que nous devons produire du logement social, avoir des bailleurs sociaux qui sont extrêmement fragilisés dans leur budget et dans leur équilibre. Donc, bien sûr, nous allons travailler, et ça va vous être présenté tout à l'heure, et nous allons y travailler d'autant qu'avec la CEMIR, vous aurez aussi tout à l'heure une délibération sur le projet de la Giraudrie. Et eh bien oui, la CEMIR se positionne sur ce projet-là pour pouvoir fournir au maximum des logements sociaux. Et je rappelle que nous devons arriver à 25%, mais c'est aussi compliqué parce que plus nous faisons de logements sociaux, plus nous devons rattraper 25% puisque ces logements sociaux eux-mêmes rentrent dans la comptabilité. Donc, c'est un peu une course à l'échalote assez compliquée à effectuer. Donc, voilà, la Chambre régionale des comptes, en effet, nous conseille d'activer encore plus la CEMIR. C'est ce que nous faisons au maximum, mais dans ses capacités à elle, alors que vous allez voir que le rapport est excellent de la CEMIR, mais c'est une petite... société d'économie mixte, et nous faisons avec ses capacités. Et d'ailleurs, pour être encore plus clair, aujourd'hui, nous voyons bien que parmi les bailleurs sociaux, ce sont des très gros bailleurs sociaux qui ont tendance à se positionner parce que eux bénéficient d'une trésorerie beaucoup plus importante. Voilà. Donc, oui. Mais le travail avec la CEMIR est fait. Et je peux vous dire qu'en effet, nous adaptons au plus sur les projets à venir l'habitat tel qu'il est plus demandé.
Oui, non, mais je parlais de la CEMIR et de ce paragraphe qui était soulevé donc, oui. Pour essayer d'améliorer plus rapidement. Les réponses sont apportées en disant qu'il y avait un risque d'équilibre au niveau de la CEMIR. Donc je le comprends tout à fait. Et je comprends que... Très sincèrement, je trouve que ce rapport, et puis celui qui suit derrière, éclaire beaucoup sur les fonctions de la commune, de l'ensemble de ses directions, donc partout où elle est, et je trouve que c'est bigrement intéressant. Donc ça permet de mieux connaître et de mieux comprendre les tenants et les aboutissants au niveau de la commune, de ses obligations, et je suis personnellement très satisfait d'avoir vu apparaître ces éléments qui sont pour l'ensemble des Rambolitains à connaître.
Tout à fait. Alors juste encore, mais bon, la CEMIR, on va revenir dessus, mais tout de même préciser que il est évident que la Chambre régionale des comptes demande au maximum que la CEMIR puisse créer du logement social, mais que sur les équilibres budgétaires, il ne faut pas oublier non plus que la CEMIR, et c'est aussi l'impulsion que nous avons eue auprès de la CEMIR. La CEMIR est aussi sur le plan des réhabilitations énergétiques de son parc existant. Oui. Et que forcément, on ne peut pas être sur tous les plans à la fois. Enfin, en tous les cas, ça limite aussi, du fait des plans de réhabilitation énergétique, ça diminue les capacités de la CEMIR à investir. Alors, petit à petit, une fois que tout le parc aura pu bénéficier de ces réhabilitations énergétiques, ça permettra d'autant plus à la CEMIR d'investir sur du neuf et sur du locatif, mais toujours en équilibrant.
Oui, voilà. C'est soulevé, alors, je ne sais pas si c'est dans ce rapport-là, mais dans le suivant.
Oui, c'est dans le suivant.
En tous les cas, que les investissements qui ont été faits sur les isolations des bâtiments sont très, très importants. Et un pourcentage par rapport à ce qui est connu généralement est très faible. Parce que je crois qu'il n'y a plus que 2%.
4%.
À 4%. Donc voilà, je me suis... 4% de d'immeubles à traiter au niveau de l'isolation. Donc c'est remarquable et c'est très bien. Parce que c'est important. Parce que de toute façon, quand on parle de crise énergétique et quand on parle de problèmes climatiques...
C'est très important pour les habitants.
Exactement.
Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non ? Alors, donc, je vais porter pour prise d'acte. C'est avec un vote. Alors, pour la prise d'acte, qui vote pour ? Contre, abstention ? Eh bien, à l'unanimité.